fasse le prénom pour le prénom Dominique Philippe, le prénom né de nos deux à Saint-Germain.
Il y a deux petites questions. Pourriez-vous nous donner des exemples pour préciser ce que vous entendez dans la distinction de la moralité de l'imagination entre hommes et femmes concernant les aspects qualitatifs et quantitatifs? Les exemples, ils tombent en quantité. Regardez tout simplement les détails dans un foyer. C'est la femme qui voit tous les détails. Et l'homme voit les grandes lignes. Une communauté d'hommes, on voit des quantités de détails qui sont laissés de côté. C'est pas très propre. Il y a toujours de la poussière. Une communauté féminine, c'est propre, c'est du nickel. On a tous vu ça tout le temps. Alors il faut se demander pourquoi. Les faits, ce que je fais, ce que j'ai dit, est une induction de tous les faits qu'on voit constamment. Alors je ne donne pas les faits parce qu'ils sont tellement multiples. Ils sont courants dans la vie. Oui. Et c'est ce qui fait que la communauté homme-femme au point du mariage, elle tient s'il y a l'amour. Autrement, il ne suit pas tout le temps. Bien, gentiment. Mais à Fribourg, je m'amusais de temps en temps à prendre le petit train qui s'arrêtait à toutes les gares. Parce qu'il y avait que des femmes qui montaient, les hommes étaient tous au travail. Alors, ça jasait. C'était amusant au possible d'écouter ça. Alors, on réfléchit. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui rend raison de ça? Bon, alors, au fond, c'est notre prudence très simple, c'est ce qui dirige notre vie constamment, elle est faite d'imagination et d'intelligence, à partir des expériences. Comme c'est un mélange, bien c'est différent. Alors c'est ce que je voulais préciser, parce que en y réfléchissant, je crois qu'il faut bien préciser ça. Et on regarde, au point de vue philosophique, j'ai le droit de regarder la femme parfaite, Marie. Elle est la femme parfaite. L'homme parfait, il est Dieu, donc il n'est plus homme. C'est Jésus. C'est l'homme parfait. Et la femme parfaite, c'est Marie. Alors là, ça, Marie, c'est vraiment la femme parfaite. Alors, il y aurait à voir ce que c'était que Nazareth. Et le philosophe a le droit de. S'il est intelligent, il s'intéresse à ces choses-là. Le foyer parfait, c'est à Nazareth. Le foyer par excellence. Et vous voyez, ce qui est extrêmement curieux à voir et instructif, Nazareth était entièrement tourné vers la contemplation. C'est le premier couvent contemplatif, Nazareth. Une contemplation parfaite. Et en même temps, d'une simplicité et d'une netteté parfaite. Il n'y avait rien qui était à côté. Alors, je crois qu'on peut dire, parce que c'est intéressant, avoir le nœud sur lequel les deux s'orientent psychologiquement très différemment. Très différemment. Il y a quelque chose de particulier. La femme est très attentive aux détails. Regardez chez le petit garçon et chez la petite fille. C'est très intéressant de voir ça. Comme c'est curieux. Même parce que c'est dans les jouets qu'on voit leur choix. Et vous voyez que les jouets ne sont pas les mêmes chez le petit garçon, chez la petite fille. Alors vous allez me dire, ah, c'est un phénomène de culture. Oh non, pas uniquement, partout. Au-dessus des cultures, c'est évident que la culture favorise ça, parce que le marché favorise ça. Mais il y a quand même un fond naturel au-delà de la culture. Alors les cultures varient plus ou moins. Choses sur comment la culture chinoise est différente que la culture de l'Europe pour ça, pour la première éducation. Mais bon, c'est très net de voir que la petite fille aime les détails, les choses qui ne sont pas trop violentes. Le garçon, tout de suite, hein, aujourd'hui, il s'amuse avec des armes. Alors, la culture augmente ça, parce que vendre des jouets qui sont des armes, c'est très mauvais. C'est tout de suite mettre l'instinct, l'orientation. On augmente ce qu'ils ont naturellement. L'homme, ordinairement, est plus fort et prend des jeux plus forts. Et on oriente ces jeux vers un point de vue d'augmenter l'irascible. Alors, l'irascible féminin existe, mais pas de la même façon que l'irascible masculin. C'est très curieux. C'est dans les passions qu'on voit justement se manifester différemment. Les manifestations des hommes et des femmes n'ont pas le même caractère. Parce que la femme est très attentive aux détails. Alors, il me semble que la femme est beaucoup plus orientée vers la disposition. Parce que c'est du côté matériel. Ça, c'est sûr que la femme est beaucoup plus liée par la procréation à la matière. Parce qu'elle doit être le nid, le premier nid. La première causalité matérielle enveloppante et maternelle. Aristote dit toujours, il y a une petite phrase à propos de la matière, il dit que la matière est maternelle. Il y a un lien très curieux entre la cause dispositive qui est matérielle et la femme, et par le fait même un souci beaucoup plus grand de tous les détails dans l'ordre de la disposition. C'était quelqu'un qui me disait, voyez la différence en quelle une jeune fille prépare sa valise de voyage et le garçon. C'est un petit détail, c'est sûr. Et ça se voit tout de suite. Et donc, si je réfléchis au point de vue philosophique, et comment ça se fait, ça? C'est la même nature, la même finalité. Mais la fin, la disposition vers la fin est très importante. Au fond, quand la disposition est faite trop rapidement, ça échoue. un examen, ça se prépare, ça se dispose, à disposition. Si on le fait trop rapidement, on dit, oh, moi, j'ai pas besoin, ça échoue. Elle est beaucoup plus maternelle, et c'est vrai, maternelle, c'est la cause matérielle. Et alors, c'est toute la cause matérielle qu'il faut étudier et voir là, le développement maternel. Et la finalité, c'est les deux extrêmes. La femme est beaucoup plus attente, beaucoup plus développée dans sa sensibilité à la disposition, tout ce qui prépare, tout ce qui se prépare. Dans un foyer, c'est la mère qui prépare le voyage, qui prépare les valises. L'homme, il lui a dit, tu n'as pas oublié ça, tu n'as pas oublié ça, tu n'as pas oublié ça. Non. Mais il ne la fait pas. Et quand il est obligé de la faire, ça va très vite, on fourre tout dedans. Donc, au point de vue disposition, il y a quelque chose de très différent. D'un côté, il y a une vraie disposition en vue de la forme substantielle. Et de l'autre côté, la disposition est faite le plus rapidement possible. Et la disposition se retrouve toujours avec la finalité. Cause matérielle et cause finale sont toujours en complice. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Et toutes les deux sont beaucoup plus maternelles. La femme a beaucoup plus le sens de la finalité, normalement, ordinairement. Vous voyez, et ce qui est souvent terrible dans les cultures modernes, c'est qu'on supprime ce sens de la finalité chez la femme. Parce que l'homme, il est beaucoup plus joueur. Et très facilement, il oublie la finalité à cause du jeu. Parce que le jeu, il le fait. Donc, il fabrique la finalité, la vraie finalité, on la subit. On est attiré. Alors ça se répercute très fort sur la manière d'aimer de l'homme et de la femme. Et au fond, c'est toujours cette manière de synthèse de l'imagination avec la volonté, avec l'intelligence. Et c'est donc vraiment l'imagination où se fait ce partage des eaux très net. Alors on en voit les effets, disposition et finalité. Ça, c'est très fort. Et l'homme est beaucoup plus attentif à l'ordre. Il est beaucoup plus attentif à la logique. Un homme, si on ne fait pas attention, il se perd dans la logique. Et il est séduit par les mathématiques, plus que la femme. Il est beaucoup plus porté vers les mathématiques. La femme, elle en fait parce que c'est bien, il faut en faire, ça fait partie d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas naturel. Et c'est très curieux de voir les réflexions d'une femme, d'un grand mathématicien. Et au fond, l'homme est séduit par les mathématiques parce que c'est là où l'ordre est le plus net, le plus court aussi, hein, et plus net. Et il est fait par l'homme. Puisque les mathématiques, on en est maître. On arrête quand on veut. Pas tout à fait, parce que on est séduit, et alors on est pris dans l'engrenage. Et l'engrenage des mathématiques est infini. Vous êtes séduit par ce point de vue-là de la fabrication des jeux, de la fabrication. Mais aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est extraordinaire. Ce sont des heures à faire ça. L'homme est séduit par les mathématiques, beaucoup plus. Ordinairement, il y a toujours des extrêmes, toujours des exceptions. La femme, est pas par elle-même, elle est séduite par ce qu'elle doit faire pour répondre à l'homme, pour pouvoir lui répondre, pour pouvoir un peu être un complément. Alors, il faudrait étudier ça. Je ne peux pas le voir, je n'ai pas assez vu. Mais la manière dont une femme, quand elle fait des mathématiques, la géométrie, la manière différente, il doit y avoir forcément le côté fondamental des mathématiques et le côté formel. Vous voyez ? Le côté formel, c'est l'homme, toujours. Les définitions logiques, c'est l'homme. L'homme et le français est terriblement pris par la logique. Avec Descartes. Descartes, on aurait tout ramené, la philosophie à la logique. Je connais un homme, un brave, je ne dis pas qui, parce que certains le connaissent. Je connais donc quelqu'un qui se dit philosophe et qui a dit comme ça à ses étudiants, on me donnerait la possibilité uniquement d'enseigner une partie de la philosophie. Tout le reste, je ne pourrais pas. Laquelle je choisirais ? Alors, il a dit la logique. Mais ça, c'est typiquement humain de l'homme. Et parce que la logique, on la domine. On la fait. Vous êtes le roi dans la logique. Alors, on verrait tout de suite la différence de gouverner d'une reine et d'un roi. Oui. Il y aurait une répercussion dans l'autre lieu. Parce que ça touche justement la personne très, très profondément. Le point de vue, disposition, finalité et l'homme, cause formelle. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans un schéma trop. C'est très souple à l'intérieur de l'amour. Mais c'est très visible et on voit tout de suite les conséquences. Donc, les exemples, c'est les conséquences. Réfléchissez un instant sur ça, la manière différente de sentir une communauté masculine et féminine. Très, très vite, très sensible. Vous voyez là. Et vous voyez par là le point de vue quantitatif et le point de vue qualitatif. Alors, chez la femme, puisque du côté de la finalité, elle se rattrape, et la finalité, c'est tout de suite qualitatif. Le côté de la disposition, c'est quantitatif. Donc, elle sera, il y aura deux types féminins, le type disposition, les détails, et l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. ordinairement, elles ont plus de finesse du côté de la sensibilité. La femme sent mieux les détails. La sensibilité, c'est pas étonnant. C'est du côté disposition et du côté finalité. Alors là, elle aura beaucoup plus ce sens de la qualité. Et l'homme a plus le sens de l'ordre logique. C'est du plus et du moins, hein. Ça c'est évident. Vous avez des hommes qui seraient, vous verrez tout de suite, qui seraient beaucoup plus de ce côté-là, mais ce n'est pas typiquement homme. Là, je prends ce qui est typiquement homme, ce qui est typiquement femme. C'est ça qui m'intéresse, puisque ça m'intéresse au point de vue philosophique, de voir ces deux personnalités qui sont complémentaires. Et la personnalité humaine, parfaite, implique les deux. Et le Saint-Père, quand il le regarde, au début de son pontificat, quand il le regardait le point de vue de la Genèse, montre très fort ça, la complémentaire. Tu as créé l'homme et la femme pour épuiser dans l'homme et dans la femme tout ce que la nature humaine a de richesse. Et ces richesses sont épuisées d'une manière différente dans le point de vue de l'homme et dans le point de vue de la femme. Mais ça reste toujours complémentaire. Donc, c'est pas une opposition, c'est au contraire du côté complémentarité qu'il faut le comprendre. Il y a complémentarité dans la mesure même où, je dirais, l'un est plus parfaitement homme et l'autre plus parfaitement femme. Il y a une complémentarité. On peut discuter très longuement sur l'amitié. L'amitié est-elle plus parfaite quand il y a complémentarité ou quand il y a similitude? Et c'est là où il faut le voir philosophiquement. Dans la complémentarité, il y a une richesse plus grande. Et une explicitation plus parfaite. Dans la similitude, il y a une unité plus profonde, mais il y a moins de richesse, puisque ça s'additionne. La complémentarité, c'est plus que l'addition. C'est une addition qui augmente et qui fait augmenter. C'est pour ça que l'amitié de complémentarité de l'homme et de la femme peut aller plus loin que la similitude de l'homme avec l'homme, de la femme avec la femme. Vous voyez ? Alors, ceci est très net lorsqu'il s'agit justement cette complémentarité en vue de la procréation. Et il ne faut jamais l'oublier. Cette complémentarité est voulue en premier lieu pour la procréation. Et elle est pleinement réalisée dans le problème de la procréation, qui est fin du corps. Il faut bien affirmer ça. La procréation, c'est la finalité de la nature au point de vue végétatif. Ce n'est pas la finalité de l'intelligence et du cœur. Mais fixer la finalité de la vie végétative. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui arrive quand, de fait, et philosophiquement, c'est important de voir, quand, de fait, le point de vue de la génération, de la procréation, est dépassé. Alors, dépassé humainement, dépassé surnaturellement. Mais, alors, évidemment, surnaturellement, ce n'est plus philosophique. Tu vois, le philosophe ne peut pas en traiter comme philosophe. C'est un problème théologique. Il y a un problème théologique très intéressant et où le point de vue philosophique est nécessaire. S'il n'y a pas le point de vue philosophique, on dira des grosses bêtises. Mais le point de vue philosophique est nécessaire. Donc, regardons-le au point de vue philosophique. Puisque, au point de vue philosophique, il y a une éthique philosophique où il peut y avoir un choix du philosophe qui veut la solitude. Alors, qu'est-ce qui peut dépasser le côté impératif si fort de la procréation? On peut évidemment dépasser par la violence, voyez, l'impératif catégorique, il faut. Mais ça, c'est un dépassement avec des terribles refoulements. Et des refoulements qui sont très profond, puisque le point de vue sexuel est le point de vue fondamental, le plus fondamental de la nature. Le point de vue nourriture est second, est individuel, tandis que le point de vue sexuel relève de l'espèce. Et donc, a une finalité très enracinée dans la nature humaine. Et donc, le faire par l'impératif catégorique, je veux dépasser le point de vue sexuel, le point de vue de la procréation, pour me donner entièrement à la contemplation, ou au secours des pauvres. Ça peut se voir. Il y a des exemples, de fait. C'est pas uniquement le point de vue surnaturel. Au point de vue surnaturel, on retrouve ça. Mais au point de vue naturel, je reste au point de vue philosophique. Qu'est-ce qui permet le dépassement de la procréation? Parce que la procréation, c'est d'une certaine manière un devoir pour la nature humaine. Pour la nature humaine, c'est un devoir que la nature humaine continue. Et elle continue grâce à la procréation. Qu'est-ce qui va me permettre de dépasser la procréation du point de vue purement humain? Donc, d'être solitaire. Alors, je crois que seule la contemplation, qui a une finalité substantielle, le permet. Autrement dit, seul l'amour de Dieu, point de vue philosophique, je ne parle pas du Christ ni de Marie. L'amour de Dieu, l'amour de la vérité, la contemplation de la vérité. Seul cet amour de Dieu peut permettre cela. Parce que la contemplation de Dieu est substantielle. Elle a un mode qui n'est pas substantiel, puisque ce n'est pas mon âme, au point de vue substantiel, qui contemple. Elle contemple par l'amour et l'intelligence, par la sagesse. La sagesse est naturelle. L'homme est naturellement un sage s'il exploite ce qu'il y a de plus éminent en lui, s'il développe son intelligence dans ce qu'elle a de plus profond et son amour également. La contemplation peut seule donner le droit au dépassement de la procréation. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Parce que la grâce ne supprime pas la nature. Et s'il n'y a pas ça, la nature va toujours hurler. Ça reviendra tout le temps. Tandis que s'il y a clairement vu ce point de vue-là, c'est un choix éminent pour ma nature humaine. C'est un choix qui dépasse le point de vue de la nature et qui montre comment la personne humaine peut arriver à une certaine contemplation philosophique. Et cette contemplation philosophique donne un droit à l'homme de dépasser ce point de vue de la procréation pour finaliser la nature humaine par son développement personnel. C'est uniquement la finalité qui permet ce dépassement. Si on ne voit pas cette finalité, ce dépassement n'est pas fait. Et si le dépassement n'est pas fait, ça reviendra toujours. Même quand le dépassement est fait, ça peut revenir tout le temps. Parce que c'est tellement inscrit en nous. C'est tellement inscrit dans notre nature. Que si ce n'est pas tout le temps volontairement dépassé, ça reviendra. Et ça mettra comme une espèce d'instabilité qui fait que le point de vue de la contemplation n'est plus ce qui me soutient et ce qui me permet ce dépassement. Vous voyez ? On peut se demander, parce que ces questions qu'on pose et qu'on vous posera peut-être, un artiste, musicien ou peintre, peut-il, en raison de son art, se dispenser de la procréation, donc de la famille ? Un artiste veut en quelque sorte être plus libre et rester tout le temps dans cette liberté beaucoup plus grande pour son art. Il se voue à son art. Est-ce que l'art permet ce dépassement ? C'est une question très importante et qu'on doit tous se poser. Parce que si on est un peu artiste, c'est normal qu'on la pose. Et on a des amis qui sont artistes, c'est normal qu'on comprenne. Et c'est une question très délicate. L'art n'atteint pas le point de vue substantiel de notre vie. L'œuvre d'art est toujours quelque chose qui peut être très beau, mais ne finalise pas la vie humaine. Alors, puisque ça ne finalise pas la vie humaine, ça ne permet pas le dépassement de la procréation. L'artiste, quand il est pris et quand il est jeune, et qu'il est très pris par son point de vue artistique, a l'impression que son art, c'est toute sa vie. Et c'est une impression. C'est une séduction. Ce n'est pas la réalité. L'art ne peut pas finaliser toute la vie humaine. C'est un aspect très important pour la communauté. Ça rend une communauté plus vivante, plus spirituelle, quand il y a des artistes. Mais ça ne modifie pas la finalité de l'homme. Et donc, on ne peut pas s'abstraire du problème familial en totalité, en partie oui, en partie c'est sûr, mais en totalité, c'est-à-dire orienter vraiment sa vie dans ce sens-là. Donc ça c'est une question qui joue très fort pour savoir si vraiment il y a un dépassement vrai, légitime, normal. L'art ne finalise pas la vie humaine. Donc, il n'y a que la contemplation. Est-ce que les œuvres de miséricorde, c'est entre les deux. C'est entre la contemplation et puis l'art. Les œuvres de miséricorde, ce n'est pas une œuvre artistique. Les œuvres de miséricorde, à la manière des saints et des saintes. Peuvent-elles dépasser le point de vue de la procréation, sans la contemplation. Mais les œuvres de miséricorde étant vraiment finalisées par des œuvres de miséricorde. Quand on voit certaines sœurs de charité qui sont entièrement prises par leur œuvre de miséricorde, où il y a très peu de contemplation. Point de vue chrétien, c'est autre chose, puisqu'il y aura nécessairement la contemplation du Christ. Mais au point de vue purement humain, au point de vue philanthropique, est-ce que les œuvres de miséricorde pourraient finaliser? Je ne crois pas. C'est très délicat, mais je ne crois pas. Parce que c'est des œuvres de miséricorde qui ne sont pas substantielles, et donc qui ne modifient pas ma vie. Elles sont parfaites quand elles sont dans la surabondance, grâce à la contemplation. Mais c'est vraiment la contemplation qui peut seule donner une stabilité et une finalité nouvelle qui permet ce dépassement, un vrai dépassement, c'est-à-dire assumé, pas simplement vouloir dépasser et donc faire qu'il y a nécessairement des refoulements, tandis que quand c'est assumé par une vraie finalité, ce n'est le refoulement peut exister instinctivement, mais il n'existe pas dans l'âme. Il y a un dépassement. Il faut toujours bien distinguer les deux. Hein. Le refoulement psychologique peut, au point de vue psychologique, hein, le refoulement psychologique peut très bien être un dépassement où on assume par une finalité nouvelle, une finalité inférieure, ou bien être au contraire un véritable refoulement parce qu'on veut dépasser cela. Et pratiquement, il n'y a pas d'assomption, il n'y a pas de dépassement. La finalité demeure. Psychologiquement, je ne peux pas distinguer. Je peux les distinguer grâce à la finalité et par la finalité. Mais des deux côtés, on dira un refoulement. Psychologiquement, le terme refoulement est psychologique du reste. Parce que on dirait la distinction entre assumer et refouler. Ce n'est pas du tout la même chose. On refoule quelque chose qu'on n'a pas assumé. Mais quand on l'a assumé, on ne l'a pas refoulé. Et ça, c'est très important. C'est la distinction qu'on fait au point de vue philosophique par rapport au point de vue psychologique. Donc, on voit à ce moment-là que seule la finalité permet ce dépassement. Il y avait une autre question. Si les voies d'accès à la finalité sont si différentes entre l'homme et la femme, les voies, hein, si différentes entre l'homme et la femme, comment comprendre qu'un homme puisse enseigner une femme, ou une femme, un homme, dont il ne voit pas la distinction entre la finalité qui est substantielle et les modes d'accès qui sont accidentels? C'est évident, vous ne faites pas la même façon un cours quand vous avez uniquement des jeunes filles devant vous ou uniquement des garçons. Si vous faites de la même manière, c'est pour que vous n'avez pas compris la différence. Mais c'est le même cours au point de vue finalité. Il n'y a pas deux métaphysiques, mais il y a une voie d'accès différente. Sûrement ça. Une voie d'accès différente, en sens que une sensibilité beaucoup plus orientée vers tel, tel point, et l'autre orientée tel autre. Il ne faut pas que le mode supprime la raison. La fameuse distinction ratio modus. Il faut l'avoir tout le temps, ça. Entre l'homme et la femme, il y a même finalité. Finalité végétative de la nature, finalité de la personne. La même finalité. Mais vous voyez que la finalité de la nature se fait dans la complémentarité. L'homme ne peut être parfaitement père que s'il y a à côté de lui une femme qui est parfaitement mère. Dans la complémentarité de vie végétative, l'homme est dépendant, c'est sûr. Tandis que dans le point de vue contemplatif, la contemplation est personnelle, étant unique pour chacun. La femme contemple seule, tandis qu'elle est mère grâce au père. Et si le père n'est pas père, elle ne peut pas être parfaitement mère. Pour que Marie soit parfaitement mère, il fallait que Joseph soit là. Puisque c'est Saint-Joseph aujourd'hui, il faut bien le saluer. Pour qu'elle soit parfaitement mère. Et ceci surtout dans l'éducation première. Alors quand l'éducation première est passée, on ne parle plus de Joseph. À quel moment Joseph est disparu, est mort, je ne sais pas. Le patron de la bonne mort, on ne sait pas quand il est mort. C'est merveilleux, ça. Ça prouve que justement, il ne faut pas limiter matériellement. Et c'est dans ce sens que les patrons de la bonne mort. Parce qu'on meurt toujours seul. Même s'il y a beaucoup de monde autour, on meurt seul. Parce que les personnes qui sont autour ne meurent pas. On est toujours seul à mourir. Et parce que c'est substantiel. Et la contemplation, parce qu'elle est substantielle, elle est unique, personnelle. On ne contemple pas à deux. On se dispose à la contemplation à deux. Ça, c'est très vrai. Ça peut aider beaucoup. Mais on ne contemple pas à deux. On ne contemple toujours seul. Et on a besoin, d'une certaine manière, de la solitude pour contempler. Il n'y a pas complémentarité dans la finalité. Dans la finalité de la contemplation. La complémentarité est du côté, justement, de la finalité de la nature. C'est-à-dire la procréation. Alors là, il y a finalité. Et il y a la complémentarité. Et cette complémentarité de la vie végétative, de la procréation, continue pour l'éducation. Il y a une complémentarité pour l'éducation. La mère n'est jamais seule pour vraiment éduquer. Et le père non plus. Il faut le père et la mère. Oui. Et quand l'éducation est terminée, où il y a une amitié de l'enfant, du jeune homme, avec le père, avec la mère, où il n'y a pas d'amitié. L'éducation se finalise par une amitié personnelle, entre le père et la mère. Le père et la mère étaient liés pour la procréation, coordination, complémentarité. Le père et la mère ne sont plus liés pour l'amitié. Vous pouvez très bien avoir une amitié avec la mère, votre mère, sans avoir d'amitié vis-à-vis du père. Et dans l'éducation, le père et la mère devaient être liés. Parce que vous retrouvez le point de vue personnel. Ça montre bien que le point de vue de l'amitié est le dépassement de la nature. Et c'est quelque chose de personnel, comme la contemplation. Vous avez les deux finalités, vous voyez, on pourrait dire, pour que la finalité de la nature, c'est la procréation. La finalité de la personne, c'est l'amitié et la contemplation. Donc, il y a en nous trois finalités possibles. La finalité de la procréation, la famille. La finalité de l'amitié et la finalité de la contemplation. Alors, on peut très bien ne pas avoir dépassé la finalité de la nature si on a très développé la finalité de la personne. Si la finalité de la personne n'est pas développée, alors il y aura toujours un manque. Mais si la finalité de la personne est très développée, au point de vue amitié, au point de vue contemplation, il n'y aura plus le manque. Il y aura un dépassement. Vous voyez qu'il y a un problème philosophique extrêmement important à voir ces deux types de personnes, l'homme et la femme. Comment il y a une coopération au point de vue procréation, éducation, comment la personne retrouve son individualité, son unité, au point de vue amitié et au point de vue contemplation. Ils sont les deux grands dépassements au point de vue de la finalité. Parce que la finalité de la procréation est une finalité immanente à la nature. La finalité de l'amitié a encore une certaine immanence. Mais il y a très nettement un dépassement de la personne. Et la finalité contemplative est très nettement.